les podcasts de Radio Vatican.
Aux Philippines, la guerre anti-drogue menée par le président Rodrigo Duterte bat son plein depuis son élection en 2016 et sa promesse d'abattre le narcotrafic dans l'archipel. Les forces de police et les escadrons de la mort ont toute licence pour traquer les consommateurs et trafiquants présumés et les tuer en cas de résistance. Cette répression s'est donc vite transformée en véritable campagne d'exécution extrajudiciaire qui aurait déjà fait, selon un bilan officiel, 3800 morts. Mais pour les associations de défense des droits de l'homme, ce chiffre déjà élevé est largement sous-estimé. L'Église catholique dans le pays est vent debout contre cette politique de répression. Plusieurs campagnes symboliques de sensibilisation à la valeur et à la dignité de chaque vie humaine sont par exemple menées dans l'archipel. Et à de nombreuses reprises déjà, plusieurs voix au sein de l'épiscopat se sont élevées contre les exactions policières. Dernier appel en date, celui des jésuites qui, dans un communiqué, affirment qu'on ne peut édifier une nation sur les victimes d'exécutions sommaires. Nous avons recueilli le témoignage du père Daniel Godefroy, fils de la Charité. Il vit aux Philippines depuis 17 ans et officie actuellement dans une paroisse d'un quartier pauvre de Manille.
Je vois dans la paroisse où je suis, depuis un an, il y a eu une quinzaine d'exécutions comme ça. En tout cas, c'est des gens qui sont répertoriés par nous, par l'Église, parce que ce sont des familles qui ont demandé des bénédictions, des messes de sépulture pour ces gens-là. Je vois par exemple, samedi dernier, on a sur notre paroisse, pour exprimer notre solidarité avec les gens qui sont en souffrance et victimes de ces extrajudicial killings, comme on dit ici, on a organisé une assemblée, une messe pour toutes ces familles. 10 familles sont venues. Donc en fait, c'était aussi pour exprimer à la fois la compassion qu'on peut avoir pour ces familles et en même temps pour exprimer la position de l'Église qui est en désaccord sur ces exécutions.
Alors selon plusieurs témoignages, depuis le début de cette répression, il y a une présence policière accrue dans les rues et également, détail peut-être plus sordide, des cadavres de trafiquants présumés abattus par les forces de police aussi dans les rues. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu vous-même, que vous avez constaté ?
Non, la police, sûrement, il y a plus de police qu'avant, ça c'est vrai. Des cadavres dans les rues, quand il y a une exécution, effectivement, si ça se passe dans la rue, les cadavres sont là. Mais bon, ça ils restent pas toute la journée là. Hein. Il y a un système qui fait qu'ils sont enlevés. Mais c'est vrai qu'il y a en général, pendant plusieurs heures après une exécution, ça crée un attroupement, un affolement. Il y a aussi parfois les médias qui arrivent, des choses comme ça. Donc ça crée une ambiance, un climat de peur. Moi, je vois par exemple dans un quartier, plusieurs fois, plusieurs personnes connues ont été exécutées et les gens disent « on a peur, on a peur ».
Est-ce qu'il y a quand même des arrestations ? Est-ce qu'elles se sont multipliées, elles aussi, au risque d'accroître encore un peu plus la surpopulation carcérale aux Philippines ?
Oui, il y a des arrestations, mais pas tant que ça, en fait. Il y a, effectivement, les prisons sont surchargées. Et je crois d'ailleurs que c'est une idée du président en disant « ne surchargeons pas les prisons ». Il vaut mieux exécuter les gens, au moins le problème est réglé. C'est sa manière de parler, hein. C'est une manière assez étonnante. C'est un populiste qui emploie le langage très populaire pour faire passer son message. Mais en même temps, par rapport à la police, il donne des ordres en disant « ne faites pas de détails, si les personnes se défendent, n'hésitez pas à tirer ». Mais en fait, on s'aperçoit que de plus en plus, ce ne sont pas des sommations, ce sont des exécutions.
Alors le président Duterte a déclaré une guerre sans merci aux trafiquants et au commerce de la drogue. Est-ce que c'est vraiment ça le problème ou est-ce qu'il y a autre chose qui se cache derrière ?
C'est vrai que la drogue est un fléau ici. Hein. On estime que plus de 2 millions de Philippins se droguent. C'est des drogues chimiques, c'est des drogues qui sont fabriquées dans des laboratoires, dont beaucoup d'ailleurs sont d'origine chinoise. Et tout le monde est d'accord qu'il faut une lutte contre la drogue. Personne ne remet en cause cet aspect-là. Mais on constate que les victimes sont les plus pauvres et que les gens qui sont les auteurs ou les créateurs de ces drogues, on n'en voit pas qu'ils sont arrêtés ou qu'ils sont exécutés, hein, ou très peu. Il y a le désir de répandre un certain climat de peur en exécutant des gens qui sont des dealers, des gens qui sont des consommateurs de drogue ou des vendeurs de drogue. Mais ça fait curieux parce que le président a dit quand il a commencé son mandat qu'il réglerait la question en 6 mois. Et maintenant, il dit que 6 ans, le terme de son mandat, ne suffiront sans doute pas à régler le problème de la drogue.
Alors derrière ces exécutions extrajudiciaires, derrière ces personnes qui sont tuées par les forces de police ou les escadrons de la mort, il y a des familles qui sont endeuillées. Quelle est la réaction de ces familles? Est-ce que c'est plutôt de la colère ou de la peur ou
Alors il y a à la fois une réaction de peur, de mutisme parfois. Il y a aussi un déni, c'est-à-dire qu'ils disent, il y a des familles qui disent « Ah oui, mais c'était pas lui qui était visé, c'est une erreur, etc. » Donc en fait, un certain déni que les personnes étaient vraiment incluses dans les opérations de trafic de drogue. Mais effectivement, ça crée une certaine peur. On s'aperçoit aussi qu'il y a des familles qui déménagent après un événement comme ça, et ils essaient de trouver d'autres logements pour ne pas être poursuivis de nouveau. Parce que parfois, c'est des réseaux, hein. On ne sait pas comment la police ou les autorités sont au courant des gens. En tout cas, ils viennent chez les gens, ils frappent chez les gens, ils entrent et ils tuent la personne. Normalement, c'est contraire à la loi. Il n'y a pas de mandat de perquisition. Il y a des gens, par exemple, en moto qui passent et qui tuent une personne dans la rue. Ça, c'est des choses qui existent depuis longtemps, mais ça se multiplie. Et ce qui est nouveau, c'est que les policiers ou les gens qui sont masqués entrent dans les maisons et exécutent les gens dans les maisons.
Est-ce que vous proposez un accompagnement pour ces jeunes, pour ces familles? Qu'est-ce que vous leur dites et surtout en quoi est-ce que vous pouvez les aider?
C'est difficile, on fait ce qu'on peut, hein, mais par exemple, on a sur la paroisse où je suis, on a décidé donc de faire une rencontre avec toutes les familles des gens concernés. Après la messe, il y a eu une messe, c'était aussi pour prier pour leurs défunts. On leur avait demandé d'apporter un portrait de la personne qui a été exécutée. Et puis après la messe, il y a eu des échanges avec des gens de différentes organisations qu'on avait rassemblés, qui sont des gens psychosociaux, enfin qui pouvaient dialoguer avec eux. On fait aussi une petite enquête sur les conditions de la famille et les conséquences pour essayer de voir au niveau de l'ensemble du diocèse où je suis, il y a vraiment une très grande préoccupation pour ce problème et pour essayer de mieux connaître la situation des familles et de voir de quelle manière ces familles-là peuvent être aidées. Par exemple, ça peut être parfois pour l'éducation de leurs enfants, ça peut être pour des aides d'urgence ou bien des aides psychologiques. Alors on essaie de faire ça. Mais ceci dit, il y a tout un travail en amont qui essaie de se faire dans plusieurs endroits, en particulier lutter contre la drogue, mais par des moyens qui soient curatifs, c'est-à-dire créer des centres de lutte contre la drogue et de réhabilitation. Et donc il y a plusieurs endroits, il y a tous des groupes qui se mettent en place pour essayer de créer. Alors il y a les barangays aussi. Les barangays, ce sont les autorités municipales locales qui font aussi parfois un travail intéressant de réhabilitation de gens qui ont envie de s'en sortir. Bon, c'est un travail collectif, mais on s'aperçoit que ça ne supprime pas les extrajudicial killings.
Depuis le début de la guerre anti-drogue, l'Église fait face. Il y a de nombreuses voix parmi les évêques qui se sont élevées avec beaucoup de force pour dénoncer cette violence aveugle et pour promouvoir la valeur de la vie humaine. Il y a eu plusieurs campagnes, plusieurs appels. Dernier appel en date, donc celui des jésuites. Cette position de l'Église, cette voix un peu à contre-courant, est-ce qu'elle est entendue aujourd'hui?
Je voudrais vous donner une réaction d'un évêque qui est d'un diocèse juste à côté du diocèse où je suis, qui s'appelle l'évêque Pablo David. Il a dit d'une manière très publique, on doit lutter contre la criminalité, mais d'une manière légale et humaine. Ils sont des êtres humains, leur dépendance de la drogue est une maladie. Ce ne sont pas les balles dont nous avons besoin, mais de réhabilitation. Pour l'amour de Dieu, arrêtez les exécutions, commencez les traitements. Je trouve que c'est très clair et il y a beaucoup de plus en plus de gens commencent à écouter cette voix de l'Église.
Donc de plus en plus de personnes entendent ce message de l'Église, ils sont sensibles. Comment est-ce que vous pouvez le voir concrètement? Comment ça se manifeste?
En tout cas, on voit qu'il y a quand même quelques effets. Hein. Par exemple, la cote de popularité du président est actuellement en baisse. Hein. Il avait une cote de popularité très importante. Hein. 80% de gens soutenaient son action. Parce qu'il a des programmes intéressants aussi. Hein. C'est quand même, il veut faire des choses pour réformer la société. Mais on s'aperçoit qu'on ne sait pas si ça va être vraiment effectif tout ce qu'il propose. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de résistance. Mais à cause des killings et parce qu'il y a aussi des enquêtes qui ont été menées par le Sénat. Et même il y a aujourd'hui par exemple des policiers qui demandent l'assistance de l'Église. En tout cas, la protection de l'Église, parce qu'ils ont envie de parler, ils ont envie de dire ce qui se passe vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont des choses fausses, hein, qui sont dites par la police, mais qui ne sont pas parce qu'en fait, on n'a pas de preuves sur la manière dont ça se passe. Donc, en fait, de plus en plus de gens, enfin, il y a des mouvements comme ça qui se créent, et bon, on espère que ça va aussi porter des fruits, mais bon. Mais ceci dit, c'est pas du tout évident. Hein. Alors, ce qui se fait aussi, c'est qu'il y a des organisations des droits de l'homme qui essaient aujourd'hui de collecter les informations, de collecter des évidences, parce que c'est très important d'avoir des témoignages très précis, quoi.
Des propos recueillis par Manuela Affigy.